France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient, ce mois de janvier, nous retournons en Syrie avec Guillaume de Monjou sur les traces du monastère de Marmoussa et d'une figure emblématique, celle du père Paolo Dall'Oglio. Disparu le 29 juillet 2013 alors qu'il se rendait à Raqqa pour négocier la libération d'otages avec l'État islamique. Un temps qui nous semble lointain maintenant, il s'est passé tant de choses depuis cette décennie où le Levant déjà était en feu. Mais nous ne devons pas oublier le martyr de ces hommes de paix dont Paolo était, porteur de lumière, avec les pierres vivantes de ce christianisme d'Orient, autant de baptisés que de yézédis sortant du désert les pieds brûlés entre Tigre et Euphrate. Ce voyage est celui de la mémoire et du souvenir, ne pas oublier, continuer à faire vivre dans nos échanges le destin de ce lieu, un monastère dans le désert, comme si les pères de l'Église continuaient à dialoguer au-delà des siècles et des confessions. Bonjour Guillaume.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes grand reporter au Figaro. Votre livre sur Marmoussa, paru en 2006, fait référence sur un personnage qui s'inscrit clairement dans la tradition de Louis Massignon et de Charles de Foucault. Des personnalités tutélaires pour ceux qui s'intéressent au christianisme d'Orient et puis cette possibilité aussi d'expérimenter le désert. Guillaume, vous avez écrit sur Marmoussa, vous avez très bien connu la figure du père Paolo. Une personnalité étonnante, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots son parcours ? Jésuite, venant d'un milieu politique où on ne s'intéresse pas forcément à l'histoire de l'Église en Orient.
Très démocratie chrétienne à Rome. C'est un homme qui aurait 70 ans aujourd'hui, donc 70 ans. Et quand il a décidé, senti l'appel pour devenir prêtre jésuite, il a très vite senti un appel qui allait par-dessous et qui était appel à l'islam. Donc c'était un homme très enraciné dans sa tradition chrétienne. Comme vous le disiez très justement, c'est un Italien d'une famille de Rome avec un père démocratie chrétienne. Donc des gens qui vraiment vivaient leur vie de foi, disons, au quotidien dans une grande ville d'Europe. Et puis lui, il se sent appelé à l'islam alors que la problématique musulmane n'est pas du tout présente à Rome à cette époque. Et il part au Liban en 82 et découvre l'islam, les études islamiques. Il commence à apprendre l'arabe de façon assez géniale, assez rapide. Tout ça, c'était pour lui des confirmations que Dieu l'attendait là, facilitait plein d'accès à plein de gens intelligents. Et il se rend compte que la guerre au Liban, à ce moment-là, en 82, vraiment sévit, fait vraiment beaucoup de dommages. Et il devient le traducteur d'une ONG, Caritas, qui va visiter la Syrie. Et à ce moment-là, une nuit, il arrive seul dans ce site, sur ce site incroyable, au milieu à 80 km au nord de Damas, au milieu du désert, comme vous le disiez, une citadelle à ciel ouvert avec des fresques qui étaient en train de disparaître à cause de la pluie, à cause du vent, à cause du gel. Il se dit, mais je suis italien, ma vie c'est d'être dans la vieille pierre, dans les ruines de Rome, je ne peux pas laisser un endroit aussi puissant de chrétienté en terre d'islam à l'abandon, c'est pas possible. Et il y a quelque chose de lui qui s'est comme ordonné complètement. Alors il était, comme vous l'avez connu un peu Sébastien, il était complètement, c'était un homme impétueux, qui avait beaucoup d'énergie, grande tige de 1m90, des grosses mains de bâtisseur, en même temps un esprit qui va très vite, un talent pour les langues et pour le contact humain, un rire très puissant, une voix qui portait dans tout le désert, je pense que on l'entendait de loin, disons. Et peut-être que aussi il était un peu trop calibré pour des petits endroits, des petites bibliothèques en Europe et tout, et que cet endroit, il s'est dit, ben voilà, un espace dans lequel je vais pouvoir crier tranquillement, me déployer, mettre toute mon énergie physique à rebâtir ce lieu. Et il a été fidèle à cette sorte de promesse.
Cette démarche patrimoniale est intéressante à relever parce qu'effectivement, pour ceux qui connaissent le lieu ou qui ont pu en entendre parler, hein, des photos sont disponibles sur beaucoup de sites internet. Il a sauvé d'abord ce monastère de la ruine, donc un monastère syriaque. Marmoussa veut dire...
El-Habashi, c'est Saint-Moïse, l'Éthiopien.
L'Éthiopien, exactement. Donc il y a un lien monastique. Je parlais des pères du désert tout à l'heure, un lien avec ce début de cette spiritualité d'Orient. Et la démarche qui peut nous intéresser pour essayer de comprendre son geste aussi, dont il faudra parler, d'essayer de dialoguer avec l'ennemi. Cette rencontre spirituelle avec l'islam est-elle, selon vous, à l'origine de sa démarche? Vous le laissez supposer dans son intérêt. Ou est-ce que ça s'est construit après, justement, après avoir posé ses premières pierres par rapport aux visiteurs de ce lieu de Marmoussa?
Eh ben, je pense que tout est dans tout, comme les soufis le croient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive à un état tel de transe spirituelle que tout s'ordonne un peu et on comprend les fils qui ont tissé notre vie, notre enfance, nos référentiels d'enfants, etc. On les comprend à la lumière de ce qu'on en a fait quand on est adulte. Et donc Paolo, très vite, l'intuition, c'est que ce lieu est à rebâtir, c'est du patrimoine. On ne peut pas laisser un monastère où les fresques sont signées par des Éthiopiens qui, vous savez, c'était des petits groupes de peintres qui sillonnaient vraiment le monde arabe, qui s'arrêtaient dans des endroits pendant un an, deux ans, avec leurs petits pigments, lapis lazuli. C'est très rare d'avoir du bleu sur une fraise du XIe siècle à l'époque. C'est une pierre très difficile à trouver, c'est un pigment extrêmement rare. Et cet homme-là qui est là, qui peint une fresque du Jugement dernier, et puis à côté d'elle, à côté de cette fresque, on aperçoit encore aujourd'hui, sur cette paroi de l'église, on aperçoit un Élie qui monte dans son chariot, et peint par un autre. Et en fait, quelque part, là où Paolo a eu du génie, et disons que c'est vraiment presque un miracle, c'est cette rencontre entre cet homme et ce lieu, mais très vite, il a été soucieux que ce lieu lui survive. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, pour le témoignage de ce qui s'est passé sur cette terre après 20 siècles, eh ben, on aura la trace d'un vestige, d'une peinture, d'une façon de peindre les clercs de l'époque, les religieux de l'époque, qu'est-ce qu'on privilégiait dans l'Ancien Testament comme enseignement. Voilà. Et ces visages ont survécu alors que depuis 14 siècles, c'est quand même une terre plus musulmane que chrétienne, disons la Syrie. Et donc, ces visages ont été mystérieusement protégés en terre d'islam. Alors certains ont été évidemment abîmés, délibérément détruits et tout ça, mais quand même, je dirais qu'il y a une cinquantaine de visages qui vous regardent depuis le XIe siècle sur ces murs, et donc intacts. Donc c'est quand même, pour Paolo, tout de suite le signe que les musulmans, nos voisins, ceux qui vont venir nous voir, eux aussi sont intéressés par la trace patrimoniale, par l'histoire qui s'est construite à partir des hommes, des gens qui ont aimé leur terre, la Syrie, pour en faire des lieux aussi beaux, qui ont soigné ces lieux. Et donc, Paolo, il était très très conscient que, en fait, l'intelligence et, disons, ce patrimoine, l'histoire, profite à tout le monde, indépendamment du fait qu'on est chrétien, musulman ou athée.
Je me souviens d'un lieu ouvert où effectivement il y avait beaucoup de passages, du passage local avec des bédouins qui venaient s'arrêter tout simplement pour des raisons pratiques parfois. Il avait fait du monastère, dans mon souvenir, un lieu pour l'eau, un lieu pour
les agriculteurs, les bergers.
Voilà, une espèce de modèle, d'un lieu modèle un petit peu pour la région, une région assez désertique, et beaucoup d'étrangers aussi. Donc il avait réussi à ouvrir son monastère. Et est-ce que ces deux aspects sont communs au Proche-Orient, vous qui avez...
C'est assez rare, à mon avis, d'avoir un lieu dans lequel tous peuvent arriver sans jamais dire quand ils repartiront. C'est-à-dire que ce n'était pas un hôtel, c'était comme une abbaye. Il voulait en faire une abbaye de l'amour divin. C'est-à-dire un lieu où les musulmans, les égarés, les touristes qui veulent seulement dire « j'ai fait Marmoussa », vous voyez, à la fin de leur voyage, qui vont dans les endroits juste pour faire un selfie. Il dit, Paolo disait, Marmoussa doit être un lieu d'accueil, c'est l'hospitalité sacrée que les musulmans vraiment exercent toute leur vie, en fait. C'est dans leur culture et dans la nôtre aussi, parce que c'est un lieu qui ne nous appartient pas. C'est un lieu qui, dans lequel Dieu parle aux hommes. Et ce qui est singulier, c'est que parce que cette attitude d'ouverture était vraiment extrêmement affirmée et vécue, c'est-à-dire que vous arriviez, vous montiez 357 marches, vous arriviez et il y avait un thé chaud qui vous attendait sur la cour face à un point de vue, si vous voulez, de plusieurs dizaines de kilomètres d'étendue. C'est-à-dire que c'est la première paroi verticale devant une esplanade magnifique où le ciel, les montagnes à droite et à gauche, mais le ciel, les nuages, tout ça, ça défile à toute vitesse. On est vraiment dans un désert. Et dans un désert, c'est pas par hasard que vous parliez des pères du désert, mais c'est vrai que c'est un lieu où, je sais pas, Dieu parle à chacun dans ce silence mystérieux où y a pas de, on n'est pas perturbé, on n'est pas, disons, distrait par des arbres, des fleurs à regarder, des choses à faire. On est seul dans un mystérieux tête-à-tête avec le grand tout. Et ce qui est vrai, c'est que beaucoup de conversions ont eu lieu là-bas. Beaucoup d'hommes et de femmes sont arrivés à Marmoussa ne sachant pas quoi trouver. Et ils sont repartis avec quelque chose dans leur cœur qui était directement relié à Dieu. Et par ailleurs, Paolo arrivait toujours à insérer par sa prédication, parce qu'il y avait quand même chaque jour une messe, il la faisait en plusieurs langues, et puis après il parlait avec les pèlerins qui venaient, ou les gens, les visiteurs, les touristes, et à chaque fois il y avait un échange sur pourquoi être chrétien, c'est vraiment vivre en profondeur sa vie spirituelle, avec le musulman qui lui aussi vit en profondeur sa propre vie spirituelle. Donc comment on va pas se dresser les uns contre les autres, on va essayer de trouver à l'intérieur de notre profondeur, de notre tête-à-tête avec Dieu dans ce lieu de Marmoussa, une harmonie islamo-chrétienne.
De Beaujou, vous êtes journaliste, comme on le précisait dans notre lancement. Vous avez pu revenir en Syrie pour un ou plusieurs reportages et vous êtes retourné à Marmoussa il y a quelque temps. Pouvez-vous nous dire l'impression de ce retour après toutes ces années d'absence ?
D'abord, retourner à Marmoussa sans que Paolo n'y soit. Alors ça, c'était quelque chose que j'appréhendais, pour tout vous dire. Je me suis demandé si le lieu allait vraiment, comme il l'espérait, survivre à sa présence. Est-ce qu'il allait être un lieu où on chercherait Paolo dans tous les recoins ? Et en fait, il se trouve que Paolo n'était pas seulement un homme extraordinaire, charismatique, hors du commun, comme tout le monde le dit, parce que ça aurait été une idolâtrie. Il était vraiment un homme, un bâtisseur, et au sens aussi de bâtisseur de communauté, fondateur d'ordre. Et il a réussi, avant de disparaître, il a réussi à faire accepter par le Vatican l'ordre monastique mixte, donc hommes et femmes, ce qui est exceptionnel dans cette région et même en général. Vraiment, les hommes et les femmes cohabitent toute la journée et le soir vont habiter dans deux bâtiments séparés, mais il y a quand même une harmonie aussi, très intéressante. En tout cas, les hommes et les femmes sont complémentaires dans leur quotidien à Marmoussa. Et quand j'y suis arrivée, j'ai été surprise, mais tout le monde était encore là, dans le même rythme, avec une intensité redoublée. Paolo, omniprésent, parce que sa vision spirituelle, il a eu le temps de la transmettre. Et donc, Ouda, qui était prieur à l'époque, quand j'y suis retournée, une femme magnifique, qui était là dès la fondation en 91 de Marmoussa, était là, présente, elle riait, elle était vivante. Et il y avait ce Jacques Mourad aussi, un des premiers disciples de Paolo, qui depuis est devenu archevêque de Homs. Donc c'est, vous voyez, Paolo, il a aussi semé une telle graine dans les cœurs des gens que, évidemment, l'Église ne peut pas passer à côté de personnalités comme ça qui ont une approche très originale de la relation avec l'islam, qui sont des gens qui ont réfléchi aux enjeux théologiques, historiques, de ces questions spirituelles. Et donc, en fait, ils sont évidemment des personnes très bien éduquées. Ils ont tous été étudiés à la Grégorienne à Rome. Ils connaissent le texte saint, le Coran aussi, ils le connaissent très très bien. Et donc, c'est des personnes qui font des ponts, en fait, entre l'islam et le christianisme. Et ils sont extrêmement respectés par les musulmans, pas seulement du voisinage, mais de toute la Syrie, en fait. Marmoussa, c'est un lieu qui est reconnu comme un lieu de paix pour tout le monde. Et les jeunes Syriens qui étaient étudiants à Alep, à Damas, ils venaient, ils tombaient amoureux à Marmoussa. De leur, c'était un des rares lieux où on les surveillait pas tout le temps. Ils marchaient dans le désert. Vous savez, les villes syriennes étaient des villes marchandes d'abord, donc c'était des villes avec des klaxons tout le temps, surpeuplés. Et là, il y avait quelque chose à Marmoussa qui était paisible. Et ils pouvaient parler autrement, même en famille. Ils faisaient des réunions de famille, ils venaient avec leur pique-nique. Ils restaient dans le désert tout l'après-midi. C'était magnifique. Et donc, les musulmans, vous voyez, rentraient dans l'église, enlevaient leurs chaussures, comme nous les chrétiens, et faisaient finalement le tour de l'église, s'arrêtaient devant un mur moins décoré que les autres, priaient un petit peu. J'ai vu des femmes prier vraiment intensément dans cette église, sentir vraiment la présence de Dieu et ressortir, et c'était pas les mêmes femmes avant et après.
Un point important, nous parlons de disparition, nous parlons pas de mort, ce qui nous permet aussi de faire un lien avec les dizaines de milliers de disparus en Syrie depuis 2011. Au cours de ces séjours, vous avez ressenti le poids de ces disparitions?
Oui, je pense que c'est une des traces de la guerre en Syrie dont on ne parle jamais parce qu'elle est indescriptible, mais on évalue à 155 000 personnes sur une population de 20 millions de personnes, donc c'est énorme comme proportion, les disparus de Syrie. De quoi parle-t-on? Quand on parle des disparus de Syrie, ce sont des personnes qui ont été enlevées. Pour 85% d'entre eux, c'est des personnes qui ont été enlevées parce qu'elles avaient eu un activisme contre le régime. Et ce qui est vrai, c'est que ces personnes ont été enlevées et nous n'avons jamais eu aucun écho sur sont-ils vivants? Sont-ils morts? Sont-ils en prison? Sont-ils torturés? Sont-ils bien traités? Sont-ils restés dans les mains du régime ou vendus à d'autres geôliers? Et donc, en fait, ça crée, c'est un système de terreur bien connu. Il y en a eu en Argentine, on se rappelle des maires de la place de Mai. En fait, la disparition de quelqu'un, c'est quelque chose qui sème dans tout l'entourage une sorte de sidération, de prudence et un sentiment que quoi qu'on fasse, si on fait mal, c'est lui qui, dans sa prison, va être assassiné. Si je me tiens pas impeccablement bien, eh ben, à tout moment, la personne qui m'est chère et qui n'est pas là, qui est disparue, peut être tuée à cause de moi. Et donc, en fait, ça met tout le monde au pas, en fait. C'est ça, un système de terreur. Et donc, malheureusement, 155 000 personnes aujourd'hui sont considérées comme disparues en Syrie. On ne sait pas si elles sont vivantes ou mortes. Mais je me suis souvent posé la question de pourquoi Paolo, qui était une figure vraiment connu dans le monde entier, reconnu comme un peu une personnalité. Quelle est la fécondité de sa disparition plutôt qu'une belle mort assassinée, vous voyez, ou décapitée, un truc un peu spectaculaire? Et ben, en fait, c'est peut-être que là encore, ce peuple syrien qu'il a tant aimé pendant 30 ans, dont il a connu vraiment les, mais intérieurement, il vivait vraiment les soubresauts de cette société syrienne qui voulait s'émanciper, qui voulait découvrir la liberté. Il sentait en lui ça. Et ben, cet homme-là, Paolo, il a tellement donné sa vie que finalement, il connaît le sort de 155 000 personnes qui sont, comme lui, disparues. Et donc, quelque part, vous voyez, je me dis, cette question, elle nous pèse à nous, hein, elle pèse à tout l'entourage. Nous, proches de Paolo, on est tous face à cette énigme, quelle est la fécondité de cet homme? Mais on vit aussi ce que toutes ces familles des 155 000 disparus vivent tous les jours.
Vous voulez dire l'impossibilité de faire son deuil sans
avoir de traces.
La vérité et le corps.
La vérité, un débris de corps. Vous voyez, à un moment donné, on a envoyé les services secrets pour fouiller la proximité de Raqqa, parce que c'est l'endroit où Paolo a été s'est livré en otage pour la libération d'autres. Et on s'est dit, ils l'ont sûrement mis dans une fosse commune. Et ben, moi, je me suis renseignée avec tout ce que je pouvais comme source d'information fiable. Et on n'a pas retrouvé même pas un petit bout d'habit, un ADN. Pour le moment, on n'a rien retrouvé. Donc en fait, pour nous, il n'est pas mort. Et d'ailleurs, Jihad, qui est devenu maintenant le prieur de la communauté de 10 personnes de moines et de moniales, qui sont donc les disciples de Paolo, mais qui sont tous à Marmoussa, et ben Jihad me disait, un homme comme Paolo ne peut pas mourir. Vous voyez, c'est une phrase qui a plein de sens. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas la trace du corps, mais on a la trace de la foi et du message qu'il a laissé derrière lui.
Nous parlions de Louis Massignon tout à l'heure. Une notion qui est importante pour comprendre son geste, c'est-à-dire, encore une fois, d'aller à Raqqa, capitale de l'État islamique à l'époque, faut-il le rappeler, pour négocier la libération d'otages. On peut se dire que c'est une forme absolue de don de soi, voilà, ayant peu d'hésitation sur les conséquences de ce geste, mais qui correspond en fait à une tradition importante, c'est la tradition de la substitution, la badalia en arabe, sans dire de bêtises. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette action? Est-ce qu'il avait conscience, selon vous, de s'inscrire dans cette tradition, c'est-à-dire de se donner à la place d'autres?
D'un autre. En fait, avant même que Massignon ait théorisé ce que vous décrivez très bien, ce don de soi, d'offrir sa vie pour le rachat, disons, des péchés de l'autre, eh bien, il y a d'abord Abraham qui négocie. Vous vous rappelez, à Sodome, il négocie avec Dieu. Il dit, mais s'il reste 30 justes, est-ce que tu vas vraiment détruire la ville? Alors Dieu finit par céder. Non, je ne la détruirai pas s'il y a 30 justes. Et s'il n'en reste que 20 et 10 et 1? Et 1. Moi, Abraham, je veux m'interposer. J'offre ma vie pour que tu sauves Gomorrhe et Sodome. Vous voyez, c'est la prière sur Sodome d'Abraham, c'est quelque chose qui a, chez Massignon, imprégné l'idée qu'en effet, si on prie pour quelqu'un qui pêche, quelque part on dit à Dieu, je suis avec lui, tu ne peux pas le condamner, tu ne peux pas l'envoyer aux enfers, en fait je suis avec lui, je m'enchaîne à lui, et moi comme je te prie, je te supplie pour lui, et ben tu dois ouvrir ton cœur à cette personne qui pêche, dans l'espoir qu'elle retrouve une voie. C'est très très beau, la substitution, mais c'est ce que le Christ, dans la tradition chrétienne, a fait, c'est-à-dire qu'il s'est substitué, vous voyez, il a offert sa vie pour sauver l'humanité. Donc il a donné sur la croix tout ce qu'il était, sa vie, pour que l'humanité puisse être apte à la résurrection, disons. Donc c'est intéressant, vous avez tout à fait raison, et c'est vrai que le concept de Badalia, fondé en 1934 en Égypte par Louis Massignon, cet islamologue brillantissime, c'est un homme d'une érudition incroyable, qui connaissait aussi très bien la tradition soufie, et qui avait étudié une figure de l'islam qui s'appelle le Halage, qui lui aussi s'est offert en sacrifice pour le rachat de son peuple. Donc tout ça est très très étonnant. Mais il y a quelque chose que notre époque n'envisage pas, parce qu'on est tellement agrippé à nos vies, nous, je veux dire, nés dans les années 80, 70, 60, on est hyper matérialiste, en fait, on y tient comme des dingues à nos propres vies. Alors qu'en fait, toute la tradition qui nous sous-tend, c'est une tradition de don de soi. Et donc retrouver le don de soi, le sens du don de soi, c'est peut-être ça le message de Paolo.
Merci beaucoup Guillaume de Mongeau pour avoir évoqué cette figure éminente, le père Paolo Dall'Oglio, et surtout la Syrie. Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Benjamin Vignal pour la technique. Nous retrouvons maintenant le rendez-vous protestant. Solae, bon dimanche.